Donc, nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, cinquième chapitre. La semaine dernière, nous avons commencé ce chapitre. Le frère Zandri, il a fait une introduction de ce chapitre. Évangile de Matthieu, chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez à vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Charles Spurgeon, connu comme le prince des prédicateurs du XVIIIe siècle, remarqua que le dernier mot de l'Ancien Testament est malédiction. Le dernier mot qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est le mot malédiction. Et que le Seigneur Jésus-Christ ouvre son serment dans le Nouveau Testament avec le mot heureux. En Malachie 4, je vais lire ce passage pour vous. Si vous voulez regarder, vous pouvez regarder. Mais ça dépend des versions. Dans la version Darby que j'ai lue, Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Il fera retourner le cœur des pères vers le fils et le cœur des fils vers leur père, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Ainsi termine l'Ancien Testament. La première partie de ce sermon sur la montagne est appelée les béatitudes, qui signifie bénédiction ou tout simplement béni. Le peuple juif attendait la venue de Messie qui va les libérer de la joug romaine. Ils pensaient que leur Messie, quand il viendra, va s'établir son royaume en Israël. Ils vivront une vie heureuse, en paix et en prospérité. Ils attendaient un royaume messianique de bénédictions physiques. Ils attendaient le rétablissement du royaume de David. C'est dans ce contexte que le Seigneur Jésus déclara ses béatitudes dans son sermon sur la montagne. Je pense que depuis le début, l'homme a toujours compris les choses que Dieu a dit tort et travers. Comment peut-il comprendre ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit? Et pour cette raison, probablement, ces béatitudes étaient mal comprises depuis le premier siècle. Et même aujourd'hui, plusieurs de ce monde glorifient ce magnifique passage de la Sainte Bible sans vraiment chercher à comprendre son message glorieux. Tous les grands hommes, ils ont pris ce passage, ils ont dit que c'est merveilleux, ce message, mais sans vraiment comprendre le trésor caché dans ce passage. Dans cette saison de l'année, les gens nous souhaitent beaucoup de bonheur. Je pense qu'on a répété plusieurs fois, beaucoup d'argent et surtout la bonne santé. Beaucoup de bonheur, d'accord, mais Qui peut me donner ce bonheur? Comment procurer-je ce bonheur et quoi, en quoi vous allez trouver ce bonheur? Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Mes chers amis, comme le peuple d'Israël, nous aussi aujourd'hui, nous sommes prisonniers de nos perspectives de temps et l'espace. Si nous allons regarder des perspectives de certains chrétiens, comment ils regardaient les bénédictions, ou une vie chrétienne heureuse, ou l'identité d'un chrétien béni. La parole de Jésus sur le monde, comme ailleurs, brise toutes ces perspectives du bonheur et l'identité d'un homme heureux. Il vous amène plus haut, puisqu'on peut comprendre le vrai bonheur. C'est Jésus-Christ qui parle ici des bénédictions spirituelles. Être béni n'est pas le fruit de nos œuvres, mais c'est une déclaration de Dieu. C'est Dieu qui déclare qui est béni. Dans la béatitude, nous pouvons voir la déclaration de Jésus de son royaume. Et dans le premier verset, nous avons vu, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Pour comprendre le premier verset de ce chapitre, nous devrions voir le dernier verset du chapitre 4 qui dit, je vais lire le dernier verset du chapitre 4, je vais lire à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Ici, nous ne pouvons pas présumer que Jésus fuyait la foule. Certes, parfois, Jésus se retirait de la foule pour être seul en prière avec son Père. Mais n'est-il pas venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus? Comment il peut fuir la foule? Il est venu pour s'offrir pour quiconque croit en lui. En Matthieu 9, 36, nous lisons, je pense que nous avons lu ce matin, « Vers la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Il faut se rappeler aussi qu'un grand nombre le suivit pour la guérison et ses miracles. Et toujours dans le premier verset, le chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Mais ici, nous voyons que Jésus montait sur la montagne en Galilée pour donner la nourriture spirituelle pour cette foule immense. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. C'est le verset 2. Par cette phrase, nous pouvons comprendre que l'enseignement peut être donné en plusieurs manières. Nous n'avons pas toujours besoin de parler pour donner un enseignement. Les paroles de sagesse peuvent enseigner les autres, mais bien souvent, Jésus enseignant ses disciples sans parler. Ses actes parlaient plus fort que les mots. Et nous, savez-vous que nos actes enseignent plus fort que nos paroles? En tant que l'Église, nous pouvons être fiers de donner un très bon enseignement pour les fidèles, pour nos enfants dans les classes, mais sachez que si nos conduites chrétiennes ne suivent pas ce que nous enseignons, tout ce que nous faisons ici, c'est une perte. Nos enfants sont souvent enseignés par notre témoignage plus que nos belles paroles. Et quand Jésus s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Il faut rappeler ici que Jésus donna cet enseignement à ses disciples. Les disciples ici, ce n'est pas les 12 disciples, mais un groupe de disciples, un grand groupe de disciples qui le suivaient. Et nous avons, dans le chapitre 10 de Matthieu, nous avons vu que on voit le nom de 12 disciples. Mais ici, dans le cinquième chapitre, peut-être le 12, il n'était pas là. Mais peut-être quelques-uns. Mais sinon, un grand nombre de personnes qui étaient le disciple de Jésus, qui le suivait partout, il était là. Un chrétien est premièrement un disciple de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de temps en temps pour écouter la parole, mais c'est quelqu'un qui suit Jésus, le sauveur de plus près. On peut dire que nous sommes chrétiens, mais la question c'est, est-ce que nous suivons véritablement le Seigneur, notre Maître? Il faut admettre qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Ceux qui choisissent de suivre Jésus de plus près, qui marchent avec lui et dans ses pas. D'autres qui veulent le suivre, mais dans une certaine distance, de peur qu'il devrait porter sa croix. Il y a des autres aussi qui veulent marcher avec la foule, sans visage, sans aucune identité, et qui courent le risque de renier leur foi et même leur maître. Vous savez, Pierre, il était avec la foule dans la nuit de la crucifixion. Il y a bien d'autres qui disent qu'ils sont des disciples de Jésus, mais viennent seulement pour l'écouter, pour la guérison, pour le bien matériel, qui crient « Alléluia » et « Hosanna » aujourd'hui et demain, crucifiez-le. Il y a différents types de disciples, mais le même enseignement. Mais le Seigneur, quand le disciple s'approche de lui, il ouvre sa bouche et il enseigna. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus-Christ, le Messie, est en train de donner un enseignement sur son royaume à ce peuple qui attendait la liberté de la jugue romaine, la paix et la prospérité. Les Juifs attendaient depuis des siècles pour la venue de Messie. Ils pensaient que le Messie, quand il viendra, il va le libérer de la jugue romaine et après tout ira bien. Mais ici, Jésus, il fait une déclaration de son royaume. C'est quoi ce royaume? Le royaume des cieux. Comment sera-t-il et qui héritera ce royaume? Il dit aux Juifs qui attendaient un royaume de prospérité que son royaume sera peuplé par des pauvres en esprit. Si vous et moi, nous étions avec lui en train d'écouter une telle chose, nous serions peut-être déçus, certainement. Mais Jésus disait que son royaume n'est pas de ce monde. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oui, Jésus est en train de parler complètement autre chose que l'oreille humaine n'a jamais entendue. Heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bonheur et la pauvreté ne font jamais bon ménage ensemble dans ce monde. Qui peut appeler un pauvre heureux? Qui peut appeler quelqu'un qui souffre heureux? Heureux, ce mot En hébreu, c'est ach. En grec, c'est makarios. Employé au présent, le mot grec s'applique à la félicité découlant d'un don accordé ou à un état de bonheur. Au futur, il désigne une joie à venir. La Bible emploie le mot bienheureux dans le même sens que heureux. L'Ancien Testament félicite l'homme qui met sa confiance en Dieu, celui qui a été pardonné par lui. Dans le Nouveau Testament, Dieu est appelé bienheureux. Marie est dite heureuse car elle a cru à l'annonce de la naissance de Jésus. La félicité est liée à la participation au royaume de Jésus-Christ. Heureux les hommes qui acceptent sa seigneurie et pour qu'il n'ait pas une occasion de chute. Tel a été le cas de Pierre qui a confessé Christ. Le Seigneur l'a dit, heureux ceux qui prendront... Le Seigneur il a appelé Pierre heureux. Et aussi, dans l'Apocalypse 19:9, nous lisons, « Heureux ceux qui prendront part au repas de noces de l'agneau. » Dans toutes ces choses, le mot heureux est utilisé comment? C'est jamais une fois, c'est utilisé pour parler des choses matérielles. Mais pourtant, dans le monde aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter ce mot comme si ce mot appartient à nos biens matériels. En un mot, heureux sont ceux qui jouissent de l'approbation et la bénédiction du Seigneur. Heureux ce sont qui jouissent l'approbation et des bénédictions du Seigneur. Est-ce que nous sommes heureux ce matin, selon la pensée de Dieu? Heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre en esprit? Être pauvre en esprit. Certes, Jésus a dit, il est plus facile qu'un chameau entrer par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Nous lisons en Matthieu 19, 24, et que nul ne pouvait servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Donc, il a dit clairement que le riche ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Mais Jésus parle-t-il ici la pauvreté matérielle? Et si c'est le cas, la plupart de ce monde hériteront le royaume des cieux. Je pense que dans le monde, il y a beaucoup de pauvres que de riches. Et si le riche ne peut pas entrer, donc le pauvre ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'aucun riche ne peut entrer. Et ça ne veut pas dire que tous les pauvres vont entrer dans le royaume des cieux. Jésus dit... Heureux les pauvres en esprit, il est concerné par la réalité spirituelle, pas de notre possession matérielle. Alors, qu'est-ce que c'est d'être pauvre en esprit? C'est de reconnaître notre faillite totale spirituelle devant Dieu. Être pauvre en esprit, c'est de reconnaître notre faillite totale spirituelle devant Dieu. D'avoir compris que nous n'avons rien de bon en nous pour offrir à Dieu. Aucun d'entre nous. Nous n'avons rien de bon en nous pour offrir à Dieu. Être pauvre en esprit, c'est d'admettre qu'à cause du péché, nous sommes complètement dépourvus de tous les moyens et nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Un grand prédicateur du XVIIIe siècle, Martin Lloyd-Jones, et certains d'entre nous connaissent ici, car certaines personnes sont en train de faire son livre, il a décrit ainsi, la pauvreté, c'est la pauvreté d'esprit, ce n'est pas être en retrait du monde, de ne pas être faible ou d'être découragé. Ce n'est pas un état d'être retrait du monde, d'état de faiblesse ou d'être découragé. C'est ni complètement renier sa personnalité, ni en glorifiant son pauvreté en esprit ou de son humilité. Mais on peut dire que je suis pauvre en esprit. Si le moment qu'on nous disons que je suis humble pour accepter que je suis pauvre en esprit, je pense que nous avons perdu cette qualité. Ni en glorifiant son pauvreté, mais être pauvre en esprit est un état. Qu'il n'y a pas de place pour la fierté ou la vaine gloire. Absence totale de confiance en soi ou de dépendance en soi. Absence totale de confiance en soi ou de dépendance en soi. Je pense que si nous avons passé par le monde, par l'école, par l'université, nous avons tous appris des choses contraires à ce que le Seigneur il a dit. Il faut avoir confiance en soi-même. Il faut pas perdre la confiance, il faut garder la confiance en soi-même. Tu es capable de faire. C'est d'être conscient de notre véritable état, que nous sommes rien. Être pauvre en esprit, c'est d'être conscient de notre véritable état, que nous sommes rien, absolument rien devant Dieu, quand nous sommes devant la face de Dieu. Et quand on est devant Dieu, nous devrions reconnaître que nous sommes rien du tout. D'être pauvre en esprit et de ne pas dépendre sur notre naissance, ça peut être notre nationalité, notre famille, notre tribu, notre caste dans certaines sociétés, ou de notre société, dans quelle société nous venons. Ou notre tempérament naturel, d'être fier de notre tempérament naturel, ou de la position de notre vie, la position que nous tenons dans la société, dans notre communauté. Et notre argent, notre richesse ou notre éducation. La vie que nous vivions ou de nos sacrifices. Nous pouvons trouver quelques exemples dans la Bible pour mieux comprendre ce passage. Je vais citer de plusieurs personnes. Écoutez ce que Abraham, le père de la foi, dit. C'est quand il parle avec le Seigneur par rapport à Sodome et Gomorre pour son cousin Lot. Abraham, il dit ainsi, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Moi qui ne suis que poudre et cendre. » Genèse 18, 27. Et Abraham, il avait possédé beaucoup de richesses. Il avait beaucoup de serviteurs. Et le monde, il le loue comme le père de la foi. Mais il dit que « Moi, je suis que poussière, poudre et de cendre. » Regardez ce que Jacob dit à Dieu quand il rencontre Dieu. « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité tu as usée en votre serviteur. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je formais deux camps. » Mais pourtant, il avait deux camps, il avait plusieurs femmes, plusieurs enfants, plusieurs bétails, mais il dit qu'il se souvient comment il a traversé le Jourdain avec un bâton. Il dit que je suis rien du tout, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. C'est le Seigneur qui use sa grâce, sa miséricorde envers nous. Et qu'est-ce qu'on peut montrer devant lui? Qu'est-ce que nous pourrons glorifier de nous-mêmes devant lui? Regardons ce que Moïse a dit à Dieu quand Dieu l'appelle sur le mont Sinaï. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Lui qui était qui a eu l'éducation en Égypte, le meilleur d'éducation de son temps, il dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Nous voyons son humilité. Et un autre homme, Gédéon, lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille, il est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais pourtant, Dieu l'a appelé ces hommes. Dieu l'a utilisé ces hommes. Mais ces personnes, ils n'avaient pas une grande estime de eux-mêmes. Je ne sais pas, nous, est-ce que nous sommes véritablement ainsi, dans le fond de notre cœur? On peut dire que je suis humble, je peux dire que je suis rien du tout. Mais si quelqu'un d'autre qui dit la même chose, nous ne pourrons pas accepter facilement. Voici ma famille, est le plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Justice 15. Et David, le grand roi, le plus grand roi qu'Israël a connu, je lis de 2 Samuel 7, 18 à 21. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? Il y a encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur Éternel, que pourrait te dire de plus, David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. » Mais quand on voit toutes ces choses, nous devrions demander qui nous sommes, puisque le Seigneur, il jette son regard dans nous. Et pourquoi nous sommes là ici ce matin? Parce que le Seigneur, il nous a connus, il nous a appelés, il a jeté son regard sur nous. C'est pour ça que nous sommes là. Et le psalmiste, il dit dans le psaume 34, verset 17 à 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Le Seigneur... Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement et qui ont le cœur brisé. Je demande comment un homme il peut tenir devant Dieu sans que son cœur brise. Isaïe, le grand prophète, quand il rencontre le Dieu saint, trois fois saint, il dit, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je suis perdu. » Isaïe dit, « Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Le Seigneur l'a vu Nathanaël quand il est sous le figuier. Et le Seigneur sait en quel état nous sommes, de ce que nous sommes faits aussi. Mais pourtant, il use sa grâce envers nous. Encore en Isaïe 57, 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont le demeure est éternel, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Regardez le contraste. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Quand on psaume 51, 17, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et David, dans son état de pécheur, d'un pécheur, il pleure à Dieu, il reconnaît que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mais pourtant, le Seigneur, il résiste aux méchants, il résiste aux des personnes qui sont fières. Et en Matthieu 18, 2, 4, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc le royaume des cieux, ce n'est pas pour les gens parfaits. Ce n'est pas pour les gens qui sont des biens. Ce n'est pas pour quelqu'un de bien. Mais ils sont complètement dépourvus de quoi que ce soit. Ils n'ont rien à montrer devant le Seigneur. Et encore Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. » Donc, quand le Seigneur il a dit, « Heureux des pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et pauvre en esprit comme un enfant. Vous savez qu'est-ce que Pierre il a dit quand après ce péché pêche miraculeux? Je lis de Luc 5, 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Comme Isaïe, il dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Encore, on peut voir un cœur brisé. Luc 18, 9 à 14. Évangile de Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui abaisse sera élevé. Nous voyons maintenant ce qui est être pauvre en esprit. Toutes nos justices, c'est comme le linge sale devant Dieu. On ne peut pas montrer même notre justice. Mais qu'est-ce que nous avons bon en nous-mêmes? Le mot pauvre, traduit du grec tokos, je ne sais pas, je ne parle pas grec, donc pardonnez-moi si je ne prononce pas correctement, même le français, veut dire la pauvreté extrême. Que la personne a rien et qu'il ne rien faire pour même procurer quelque chose et qu'il est réduit à vivre sur la générosité des autres, c'est-à-dire un mendiant. Le mot pauvre, takos en grec, ça veut dire tout simplement un mendiant. Le pauvre en esprit, ce sont qui ont arrêté de mettre leur confiance en soi, leur identité, leur personnalité, leur mérite, leurs œuvres pour être en relation avec Dieu. Mais peut-être nous avons entré avec beaucoup de bagages quand on est entré à ce temple. La première fois quand vous avez connu le Seigneur, nous avons chacun venu avec nos bagages, avec nos sacs, plein de choses, plein de médailles, plein de certificats, plein de mérites, plein d'études, plein d'honneurs. Mais ceux qui sont pauvres en esprit, ils laissent tout ça. Et quand ils viennent devant Dieu comme des mendiants, sans rien, complètement dépendant sur sa bonté, sur sa grâce et miséricorde pour être accepté par lui, pour recevoir sa paix, son pardon, son amour, pour échapper de la condamnation et pour être sauvé. Et tout ce que nous possédons dans ce monde ne peut pas nous procurer le salut. Les pauvres en esprit ont toujours dans le besoin de Dieu. Ce n'est pas un état, « Ah, j'étais pauvre en esprit, et maintenant j'ai le Seigneur. » Mais c'est un état qui continue jusqu'au jour que nous allons arriver au ciel. Les pauvres en esprit ont toujours le besoin de Dieu. Ce qui n'est pas cette attitude n'a pas le temps pour la lecture de la Bible, ou pour prier, car il pense qu'il peut vivre seul sa vie, indépendamment sans Dieu. Et si nous n'allons pas lire la Bible, nous n'allons pas prier, ça veut dire que nous renions la souveraineté de Dieu en notre vie. Je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre ma vie. Je sais comment gérer ma vie. Les pauvres en esprit ne comparent pas eux-mêmes avec les autres chrétiens. Si nous avons cette pauvreté d'esprit, on ne peut pas nous comparer nous-mêmes avec des autres croyants. Quand on est au fond, nous ne pouvons pas dédaigner des autres. Mais moi-même, je suis au fond, mais comment je peux regarder les autres d'une manière correct. Les pauvres en esprit ont la compassion pour son prochain. Si on est pauvre en esprit, nous devrions avoir la compassion pour notre prochain. On connaît qu'est-ce que d'être pauvre en esprit. Même si nous sommes chacun différents ici, nous sommes entrés différemment, nous avons des expériences, nous avons la vie aussi qui est différente, la culture, nos arrière-plans, mais une fois qu'on est entré ici, le compte de tout le monde était à zéro. Et nous sommes tous pareils devant le Seigneur. Et comment on peut être fier de notre position. Notre seule position, c'est d'être à pied de Jésus. Le pauvre en esprit ne peut même pas se glorifier de sa marche avec le Seigneur. Si on est véritablement pauvre en esprit, on ne peut même pas se glorifier de notre marche, notre vie avec le Seigneur. C'est, nous comptons par la grâce. C'est par la grâce de Dieu que je fais chaque pas. Et donc ici, le Seigneur, il évoque le royaume des cieux. Comme nous avons déjà vu que ce passage, les béatitudes, concerne le royaume des cieux, un royaume a une roi, un roi. Un royaume devrait avoir un roi. Ce n'est pas la République démocratique. Quand vous devenez le citoyen de ce royaume, vous n'avez pas le droit de prendre la décision pour vous-même, pour votre vie. On peut avoir un seul roi dans ce royaume. Et si nous sommes entrés dans ce royaume, tout le pouvoir appartient au roi. Et c'est le roi qui décide notre vie. Si nous sommes entrés dans le royaume des cieux, et une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, et nous sommes dans le royaume des cieux, et c'est seulement le Seigneur, il peut décider notre vie. Moi, je ne décide plus ma vie moi-même. Nous n'avons pas le droit de décider notre vie de nous-mêmes. On laisse tout dans la main du Seigneur, qu'il dirige notre vie. Peu de chrétiens sont vraiment intéressés dans le royaume des cieux, car ils sont trop occupés avec les choses terrestres. Aujourd'hui, ici, nous allons prendre le royaume des cieux, on pense que c'est quelque chose qui devrait venir dans l'avenir. Quand le Seigneur il viendra, je serai tel. Non, c'est le Seigneur nous appelle d'être, avoir cet esprit pauvre, c'est maintenant, dans cette vie, dans ce vie chrétienne que nous menons. Et quand on parle de royaume des cieux, combien de personnes sont... On peut parler de royaume des cieux, mais on est en train de faire autre chose, s'occuper des choses terrestres. Est-ce que c'est compatible pour un citoyen des cieux, sur cette terre? La nouvelle identité d'un vrai disciple de Christ. Les gens Jésus considère heureux, ce ne sont pas des riches, ce ne sont pas des grands de ce monde par rapport à la perception du monde, même pas ceux qui sont appelés le Saint-Père par un grand nombre de religieux. Jésus définit l'identité d'un chrétien, d'un disciple de Christ, celui qui est pauvre en esprit. Celui qui est pauvre en esprit, ce n'est pas des grands, ce n'est pas des gens qualifiés, ce n'est pas des gens avec beaucoup de mérite, mais ça c'est la nouvelle identité d'un chrétien. Dans ces versets, nous pourrons connaître le désir de Dieu pour ses enfants. Sa volonté, ce que le Seigneur peut créer en nous pour être dans son royaume. Et ces paroles de Jésus-Christ qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ici on parle « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est si nous avons la pauvreté en esprit, si nous sommes humbles dans notre esprit, nous sommes misérables dans notre esprit, et nous avons le royaume des cieux, nous hériterons le royaume des cieux. Et si nous allons demander c'est quoi d'être un chrétien, on peut peut-être dire beaucoup de choses, mais peut-être on va oublier aussi être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, c'est le signe, ou c'est la chose de base d'un chrétien normal. Il faut être pauvre en esprit pour entrer au royaume des cieux, car il n'y a personne dans le royaume des cieux sans cette qualité. Si nous allons arriver au ciel, nous ne trouverons personne qui n'est pas pauvre en esprit. Si des personnes qui peuvent dire les choses sur eux-mêmes n'ont pas leur place là-bas. Donc, c'est le caractère fondamental pour un enfant de Dieu, pour un citoyen du ciel. Ça consiste de vider soi-même. Être pauvre en esprit, c'est un processus continuel que nous devrions vider soi-même chaque jour. On ne peut pas garder les choses qui n'appartiennent pas pour une vie chrétienne. Et comme Jean-Baptiste qui a dit, il faut qu'il croisse et je diminue. Il faut qu'il croisse et je diminue. Et de plus en plus que je diminuerai, je donnerai de plus en plus de place pour mon Seigneur, pour l'Esprit Saint dans mon cœur. Et dans notre cœur, il n'y a pas de deux rois. Soit je suis roi ou le Seigneur il n'est pas là. Sinon, le Seigneur il règne dans mon cœur et moi je ne suis pas là. C'est mieux de laisser la place pour le Seigneur sur le trône de mon cœur. Il faut qu'il croisse et je diminue. C'est quelque chose d'absolument contraire de ce que le monde peut nous enseigner. Le monde nous enseigne beaucoup d'autres choses. Il y a des coachings pour développer notre personnalité dans le monde. Le monde, il peut fabriquer les hommes très confiants, très rassurés. Le monde, il fabrique les gens comme ça. Mais ce que la parole de Dieu nous demande de faire, d'être pauvre en esprit. Je vais lire de ce que l'apôtre Paul, il dit de lui-même en Philippiens 3, épître aux Philippiens, chapitre 3. Je vais lire à partir de verset 1. Pour tous ceux qui pensent que j'ai quelque chose dans ma vie, nous devrions voir cet exemple de cet homme qui avait beaucoup de choses dans sa vie. Mais ce qu'il a fait, finalement. Philippiens, chapitre 3, le verset 1. « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui obtient par la loi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances et devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection entre les morts. C'est incroyable, n'est-ce pas, ce que l'apôtre Paul, il était quand il était seul. Et tout ce qu'il a quitté, c'est, je pense que c'est William Carey qui était missionnaire en Inde. il a fait de grandes choses pour le Seigneur. Et il a traduit la Bible dans plusieurs langues indiennes. Même les Indiens n'étaient pas là pour traduire, faire ce travail. Mais William Carey, il a accompli de grandes choses pour le Seigneur. Mais il était un homme humble. Et apparemment, tout ce qu'il a écrit, une grande partie de ses écritures, il est parti en fumée à cause d'un feu. Il a dit, le Seigneur, il connaît mieux que moi. S'il a décidé que ça devrait partir, il est sage. Et à la fin, après sa mort, il a dit que il a demandé de rien mettre sur son tombeau, sauf sa date de naissance, sa date de décès. Il a dit, pauvre vermine que je suis, je tombe dans tes bras. C'était ça, ses dernières paroles. Pauvre vermine que je suis, je tombe dans tes bras, Seigneur. Mais nous n'avons pas grand-chose en nous. Nous n'avons pas accompli grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on peut garder comme fierté dans notre vie? Dans Éphésiens 1:3, nous lisons, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. » Seigneur, nos pensées, évidemment, ce n'est pas de le tien. Seigneur, tu as de bonnes choses pour nous. Mais nous, dans ce monde, comme le fils prodige, nous languissons pour manger la nourriture du pourceau. Seigneur, nous sommes fiers de notre bien, dans ce bien matériel dans ce monde. Seigneur, tu as réservé les choses merveilleuses dans le ciel pour nous, dans cette vie que tu nous donnes. Seigneur, aide-nous, ouvre nos yeux, puisqu'on peut voir ta bonté, pour voir ta grâce, pour voir ta miséricorde. Seigneur, puisqu'on peut voir notre nudité, Seigneur, donne-nous un esprit pauvre, un esprit humble. Seigneur, qui nous enseigne que nous sommes rien devant nous, devant toi. Seigneur, nous pourrons crier comme Esaïe qui a crié, « Malheur à moi, pécheur comme je suis. » Seigneur, tous tes grands serviteurs ils sont humiliés devant toi. Seigneur, donne-nous la connaissance qui vient d'en haut. C'est la connaissance qui peut nous faire vivre selon ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Ou que, Seigneur, nous pourrons chacun dire, comme Jean-Baptiste, faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, oui, remplis-nous. Notre cœur remplit notre être avec ton esprit, avec ta parole, puisque nous pourrions disparaître jour après jour et que Christ vit en nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos pensées hautaines, pour nos pensées vaines. Seigneur, pour tout ce que nous n'avons pas fais jusqu'à maintenant, et Seigneur, nous comptons sur toi. Prends notre vie et nous te demandons que tu mènes notre vie, pour tu règnes sur nous, tu règnes en nous. Que ta parole fasse son œuvre en nous. En ton Saint-Nom, nous prions tout cela. Amen.